11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM. Alors, pour introduire le sujet du jour, je ne résiste pas à vous lire cette accroche formulée par les Colomb Days, portée par le Craig. Vous êtes peut-être assis sur un cancer. En effet, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent dans le monde et la deuxième cause de mortalité par cancer en France et dans le monde. Avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en studio le professeur Thierry Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de l'unité INSERM Nutrition Croissance Cancer. Voilà. Vous êtes gastro-entérologue à l'unité de gastro-entérologie du CHRU de Tours. Voilà, est-ce que je me trompe ?
Non, effectivement, vous avez tout dit. Concernant mon activité, alors effectivement, je suis professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Tours, et donc j'émerge dans l'unité INSERM N2C, donc avec une activité clinique qui inclut la prise en charge du cancer colorectal à différentes étapes de l'évolution de la maladie, puis une activité de recherche au N2C sur une thématique, comprendre les mécanismes de carcinogénèse, identifier des biomarqueurs permettant l'amélioration du suivi des patients et en lien avec la clinique et pour faire progresser les connaissances et la prise en charge des patients.
Alors peut-être Thierry Lecomte, pour commencer, peut-on redire, expliquer à nos auditeurs c'est quoi un cancer ? Parce qu'il y a plusieurs stades et tout,
ouais.
C'est quoi ?
Alors, un cancer, c'est une cellule qui va s'autonomiser et qui va, évoluer pour son propre compte, qui va impacter sur l'environnement. Et donc, c'est la résultante souvent de multiples facteurs. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux. Si on prend l'exemple du cancer du côlon, c'est lié à l'âge aussi, des facteurs immunitaires. Enfin, il y a de multiples facteurs qui font qu'à un instant T, il va y avoir une conjonction qui va aboutir à une cellule tumorale qui va se développer, qui va se multiplier et progresser et aboutir à un cancer. Alors, dans le cancer du côlon, on connaît assez bien l'histoire naturelle de ce cancer, puisque la grande majorité, voire tous les cancers du côlon, se développent à partir de lésions précancéreuses, qui communément sont appelées des polypes, et qui se développent dans le cancer, qui se développent dans le côlon. Alors, la fréquence de ces polypes est d'autant plus importante que les sujets sont élevés dans la majorité des cas, sauf cas particuliers. Et donc, ce polype va augmenter en taille progressivement avec l'âge. Et ce n'est pas tous les polypes qui vont se transformer en cancer, mais un certain nombre vont se transformer en cancer. Ils vont aboutir à une invasion de la paroi du côlon, pour faire simple, et envahir les ganglions qui sont adjacents au côlon, et puis à un stade ultérieur, se propager et développer des métastases à distance du côlon, essentiellement au niveau du foie ou du péritoine, qui est l'enveloppe qui entoure le tube digestif, puis également au niveau du poumon, qui sont les trois sites métastatiques.
Alors peut-être expliquer aussi comment ces cellules cancéreuses se retrouvent peut-être aussi loin, entre guillemets, du côlon.
Alors, elles vont acquérir des propriétés qui... Alors, ce n'est pas toutes les cellules cancéreuses qui circulent dans l'organisme qui vont se transformer en métastases, mais certaines vont acquérir des capacités d'invasion, de prolifération, et qui vont pouvoir, entre guillemets, établir une sorte de greffe dans un organe adjacent. Bon, c'est assez réducteur, c'est beaucoup plus complexe quand même. On est face à des systèmes biologiques très complexes dont on connaît encore assez peu de choses, mais les connaissances avancent et qui feront faire qu'il va y avoir une métastase qui va se développer chez certains patients. Alors ça va dépendre aussi des mécanismes liés à l'autre, c'est-à-dire aux patients, les capacités du système immunitaire par exemple à détruire ces cellules à distance du site primitif. Enfin, il y a plein de mécanismes qui vont faire qu'un patient donné va faire des métastases et pas un autre. Voilà, il y a une diversité, une hétérogénéité. Alors, rebondir là-dessus, je dirais que le cancer du côlon, c'est effectivement un cancer qui est très fréquent, mais c'est, maintenant qu'on connaît bien la biologie de ce cancer, en fait, c'est plein de cancers rares qui représentent l'entité cancer du côlon. Avec les progrès de la biologie moléculaire, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de sous-types de cancers du côlon, avec des altérations propres, des mécanismes d'invasion, de prolifération, des pronostics différents aussi. Et donc, actuellement, il y a un grand enjeu de recherche pour une meilleure caractérisation de ces sous-types, avec pour conséquence d'optimiser la prise en charge, c'est-à-dire que pour un sous-type particulier, de connaître une altération sur laquelle on va pouvoir mettre en œuvre un traitement qui va apporter un bénéfice à ce type de cancer. Donc, actuellement, il y a vraiment... La révolution en cancer du côlon ces dernières années, c'est un démembrement des différents sous-types dont l'intérêt est, en termes de stratégie thérapeutique, de pouvoir mettre en face des traitements qui vont optimiser l'efficacité pour ces patients-là, en gros.
Donc ça veut dire que chaque patient a son cancer, entre guillemets ?
Voilà, je dirais qu'il n'y a pas deux cancers identiques. Il y a une grande diversité, une grande hétérogénéité, alors à l'instant T, mais également au fil du temps, puisqu'on connaît de plus en plus maintenant des mécanismes de résistance au traitement qui vont se développer, une sorte de pression de sélection qui va aboutir à une adaptabilité, une adaptation à l'environnement du cancer pour engendrer des mécanismes de résistance aux différents traitements et donc aboutir à une évolution qui va nous inciter à changer de traitement, par exemple.
Donc vous avez dit tout à l'heure que c'est aussi lié à l'âge, mais alors quels sont les autres facteurs de risque pour ce type de cancer ?
Alors, il y a bien sûr l'âge. L'âge moyen du cancer du côlon dans la population, c'est 70 ans à peu près. Hein. Donc c'est lié à la sénescence des cellules qui vont être associées à un mécanisme de carcinogénèse. Il y a des facteurs environnementaux. Hein, le tabac augmente le risque de cancer du côlon. Alors, c'est propre à de nombreux cancers, hein, le tabac. Il y a aussi le défaut d'activité physique, la sédentarité, le surpoids augmente le risque de cancer du côlon. Donc, il y a ces facteurs environnementaux qui jouent. Alors, et probablement, il y a aussi d'autres facteurs environnementaux liés à l'exposome, à l'exposition à des lotés de produits toxiques. Pour l'instant, ce n'est pas très bien documenté, mais sans doute que ça intervient. Alors, c'est multifactoriel hein, dans la majorité des cas. Alors, il y a aussi des facteurs génétiques qui interviennent. Les patients, un sujet donné qui a un antécédent de cancer du côlon chez son papa ou chez un frère et sœur va avoir un risque plus élevé que celui qui n'a pas d'antécédent familial dans la famille de cancer du côlon. Donc il y a aussi une composante génétique qui intervient. Voilà à peu près les principaux. Alors on définit en fait trois niveaux de risque dans la population qui nous servent, nous en pratique, pour définir une stratégie de dépistage. Parce que comme on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le cancer du côlon... est un cancer pour lequel il a été mis en place au niveau national une stratégie de dépistage et de prévention justement pour soit diagnostiquer très tôt un cancer à un stade peu avancé, permettre une guérison dans la grande majorité des cas et associer un très bon pronostic, mais également traiter les lésions précancéreuses pour empêcher qu'un cancer se développe. Donc en fait, on définit trois niveaux de risque. Il y a la population à risque moyen. Donc c'est la population âgée entre 50 et 75 ans, qui n'a pas de facteurs de risque type antécédents familiaux, qui n'a pas aussi, on parle des pathologies inflammatoires, une inflammation chronique du côlon expose aussi au risque de cancer du côlon plus élevé. Par exemple, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique avec une atteinte colique font augmenter le risque de cancer du côlon. Donc quand il n'y a pas ces facteurs de risque-là, on définit une population à risque moyen. Et cette population-là va être sollicitée de façon systématique pour faire un test de dépistage basé sur la recherche de sang dans les selles. D'accord ? Donc ça, c'est la population risque moyen. Alors, il faut bien insister sur le fait que ce soit des patients asymptomatiques. Dès qu'on a des symptômes digestifs, on ne rentre plus dans le dépistage. Hein, il faut consulter, on est dans une stratégie diagnostique. Donc là, il faut bien faire la différence entre les deux. Ensuite, ça présente 8 à 10 millions de sujets dans la population générale. Donc ces sujets-là qui vont recevoir tous les deux ans un courrier par la poste les incitant à faire cette recherche de sang dans les selles. Hein, donc ça, c'est le premier niveau de risque. Ensuite, il y a les risques élevés de cancer du côlon, donc antécédents familiaux au premier degré de cancer ou d'adénome, hein, qui est la lésion précancéreuse. Les patients qui ont une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin aussi. Donc ceux-là sont à risque élevé. Et là, on préconise une stratégie de dépistage basée sur des coloscopies à intervalles plus ou moins réguliers en fonction des constatations à chaque examen. Ensuite, il y a un troisième risque, niveau de risque, c'est le risque très élevé. Et là, c'est les patients ou les sujets qui ont une maladie génétique, des anomalies dans certains gènes qui sont associés à un risque très élevé de cancer du côlon. Donc on connaît un certain nombre de gènes qui sont impliqués notamment dans la réparation de l'ADN, qui font défaut et qui vont favoriser la survenue d'un risque de cancer du côlon du rectum avec un risque très élevé. Donc chez ces patients-là aussi, on va avoir recours à des stratégies de surveillance endoscopique très tôt dans leur vie, à des intervalles souvent rapprochés, voire pour certaines maladies, qu'est la polypose adénomateuse familiale, où on va enlever le côlon de façon préventive pour éviter qu'un cancer du côlon se développe. Parce que dans cette maladie-là, 100% des patients atteints par cette maladie génétique vont développer un cancer du côlon vers l'âge de 30 ans. Voilà à peu près ces niveaux de risque sur lesquels sont définies des stratégies de dépistage selon des recommandations nationales issues des groupes autour des sociétés savantes.
Alors, je rembobine un peu pour poser une question peut-être naïve, mais voilà, mieux vaut la poser.
Allez-y.
Donc là, vous avez dit le tabac. Donc ça, on pourrait se dire que c'est pour les poumons plutôt, le tabac. Bon, mais donc pourquoi ça atteint aussi le côlon?
Alors, le mécanisme précis, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est les carcinogènes qui sont issus de l'inhalation du tabac qui vont diffuser dans l'organisme. Le tabac, c'est le cancer du poumon, mais aussi c'est le cancer de vessie. Hein, donc probablement, c'est des carcinogènes qui sont éliminés dans les urines qui vont exposer la paroi de la vessie à un risque de cancer augmenté. On a le même problème dans le cancer du côlon. Vous dire précisément quelle substance dans le tabac, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est bien documenté, ça fait augmenter le risque de cancer du côlon. Et pour rebondir un petit peu, il faut bien savoir qu'en France, 50% des cancers seraient évitables si moins de consommation d'alcool, sevrage du tabac et puis activité physique. Hein, donc c'est aussi un message à bien comprendre. Ça va au-delà de la problématique du cancer du côlon. Bien se rendre compte que 50% des cancers seraient évitables si on supprimait ces trois facteurs de risque.
Et alors, quid de l'alimentation?
C'est pareil. Hein, il y a aussi des études déjà anciennes qui avaient montré que manger trop de viande augmentait le risque de cancer du côlon, ou si les viandes qui sont cuites au barbecue, qui vont générer des carcinogènes, font augmenter le risque de cancer du côlon. Donc oui, c'est sûr qu'il y a aussi des facteurs alimentaires. Après, est-ce qu'il y a les végétariens font moins de cancer du côlon? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut promouvoir une alimentation équilibrée sans faire d'excès en quoi que ce soit.
Parce que on voit aussi une certaine littérature qui prône le bien-être, la santé, et on voit des recommandations sur divers régimes alimentaires, le régime, je dis n'importe quoi, méditerranéen, le régime japonais.
Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des régimes qui exposent, qui sont associés à un risque moindre de cancer. Vous avez bien cité le régime méditerranéen. Sans doute que c'est lié aussi à l'impact des régimes sur le microbiote. On parle beaucoup du microbiote actuellement. Vous savez que dans l'organisme, dans le tube digestif, il y a plus de bactéries que de cellules dans l'ensemble de l'organisme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très impactant sur la physiologie. Et de plus en plus, il y a des données entre microbiote, risque de cancer du côlon, risque de diabète, risque de l'obésité, certaines maladies mentales aussi sont associées à ça. Donc actuellement, il y a un enjeu de recherche qui est très important, c'est le microbiote. Et on sait que la composition du microbiote, un des éléments déterminant sa composition, c'est bien sûr le régime alimentaire.
Voilà, et bien je vous propose de faire une première pause musicale avant de se pencher sur les éléments diagnostiques et puis à partir de quel moment il serait bon d'aller consulter un médecin pour savoir si malheureusement on a peut-être un cancer du côlon. Alors, nous allons écouter une pause musicale proposée par l'un de vos collègues, voilà, qui peut-être écoute cette émission. Donc, nous allons écouter Volo, 17 ans, et on se retrouve tout de suite après dans cette émission sur Radio Campus Tours.
Petit carré de jardin, cabane et tondeuse à gazon. Le même âge que mes voisins, une voiture, une maison. Je paye mes impôts, ma retraite, je me laisse aller dans les bourrelets. Et quand je reçois pour une fête, on a des enfants à coucher. Quand j'avais 17 ans, je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul. Comme est passé le temps et qu'on m'appelle monsieur, je repense à l'ado qui se foutait de ma gueule. Si je pouvais me croiser, je pense que je me ferais un peu peur. Ma femme que j'ai jamais rencontrée, mes gosses qui ont l'âge de ma petite sœur. Je m'écouterais attentif, me moquer de ma coiffure. Rock'n'roll alternatif, sexe, drogue, alcool et nos futurs. Quand j'avais 17 ans, je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul. Comme est passé le temps et qu'on m'appelle monsieur, je repense à l'ado qui se foutait de ma gueule. Descente à fond sur le guidon, en danseuse pour faire l'effort, une main qui chope le bidon. C'est dur à croire, je fais du sport. Chemin de terre, petit village, où je fais s'engueuler les chiens. Mon existence prend le virage, ça va rouler, je me souviens. Quand j'avais 17 ans, je me moquais du vieux qui faisait du vélo tout seul. Comme est passé le temps et qu'on m'appelle monsieur, je repense à l'ado qui se foutait de ma gueule. Je repense à l'ado qui se foutait de ma gueule. Je ne suis plus à l'école, derrière moi les contrôles de maths. Ancien fumeur et quand je picole, je ne finis plus à quatre pattes. Bientôt la moitié d'une vie, bien loin de l'adolescence. C'est pas gagné, c'est pas fini, mais des fois quand j'y repense. Comme est passé le temps et qu'on m'appelle monsieur quand je fais du vélo tout seul. Si j'ai plus 17 ans et sans être trop vieux, quand je croise un ado, je me fous de sa gueule. Quand je croise un ado, je me fous de ma gueule.
Volo dans la Méridienne sur Radio Campus Tours, avec moi en studio le professeur Thierry Lecomte. Alors c'est la minute chiffrée, je crois que vous vouliez donner quelques chiffres autour du cancer du côlon.
Oui, pour bien qu'on se rende compte, bien que les auditeurs se rendent compte de l'enjeu de santé publique que ça représente. Hein. Donc comme vous l'avez dit, le cancer du côlon, c'est le troisième cancer le plus fréquent, tous sexes confondus. Alors ça survient après le cancer du sein, après le cancer de la prostate. Et c'est environ 44, 45 000 nouveaux cas de cancer du côlon du rectum par an en France. Donc c'est quand même assez considérable. Ça représente pas loin de 20% de l'ensemble des cancers. Et alors, par rapport au pronostic, ça reste quand même, par rapport au cancer du sein, par rapport au cancer de la prostate, un cancer qui est le moins bon pronostic, puisque c'est la deuxième cause de mortalité par cancer. En France, c'est environ 17 à 18 000 morts par an en France de cancer du côlon, et ça se situe au deuxième rang après le cancer du poumon. Voilà. Donc pour situer un petit peu l'enjeu de santé publique que ça représente, et donc d'où l'intérêt de sensibiliser la population au dépistage en général, et puis aussi aux facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir pour prévenir ce cancer.
On y reviendra tout à l'heure aux campagnes de dépistage qui existent en France, mais peut-être voulez-vous nous expliquer alors quels sont les symptômes qu'on peut ressentir voilà, si il y a une, disons, un cancer du côlon. À partir de quand faut se décider à aller consulter son médecin?
Alors, de façon générale, quand on a des symptômes, il faut consulter. Hein, voilà,
c'est
déjà,
mieux.
Voilà, c'est mieux. Alors, les symptômes les plus communs, je dirais les plus fréquents, qui vont aboutir au diagnostic de cancer du côlon. Donc, c'est interprété en fonction du contexte. Hein. La prise en charge de symptômes digestifs de quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a pas de facteur de risque, on n'aura pas les mêmes hypothèses diagnostiques que chez quelqu'un qui a 60-70 ans, où là, le risque de cancer du côlon sera plus élevé. Donc, il faut aussi tenir compte. Donc, ce que je peux dire comme symptômes, ça s'interprète en fonction du contexte. Donc, c'est vrai que la situation classique auquel on est fréquemment confronté, c'est un patient de 60 ans qui va présenter, par exemple, du sang dans les selles, hein, émission de sang rouge, qui va motiver une consultation auprès de son médecin généraliste et aboutir à la réalisation d'une consultation auprès d'un gastroentérologue qui va proposer une coloscopie, qui est l'examen, qui est la référence, qui est le gold standard pour permettre le diagnostic de cancer du côlon dans sa forme non compliquée, hein, qui va se manifester par des symptômes comme émission de sang rouge dans les selles. Un autre symptôme assez fréquent, c'est l'apparition d'une constipation, hein, chez quelqu'un qui n'était pas constipé avant, ou d'une diarrhée. Hein, ça peut être aussi deux symptômes révélateurs, conduisant après au diagnostic de cancer du côlon, sachant qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner ces symptômes-là. Donc c'est vraiment à interpréter en fonction du contexte. Et donc tout patient, heureusement, qui présente une constipation ou une diarrhée, ne va pas conduire au diagnostic de cancer du côlon, heureusement, dans la grande majorité des cas. Mais en fonction du contexte, ça peut être un symptôme qui peut conduire au diagnostic. Et donc là, en fonction de l'évaluation qui sera faite par le médecin généraliste, puis le gastro-entérologue, il y aura indication à faire une coloscopie pour permettre un diagnostic de la cause de ces symptômes, et ça peut aboutir donc à un diagnostic de cancer du côlon. Donc c'est vraiment l'endoscopie, hein, la coloscopie, qui est l'examen de référence pour faire le diagnostic. Alors c'est un examen qui est assez intrusif, on va dire, hein, parce qu'on prend une caméra, on la met dans le derrière, on fait ça généralement sous anesthésie, et puis on va explorer l'ensemble du côlon. Ça nécessite au préalable une préparation, une purge, comme on dit, hein, pour éliminer toutes les matières et faire en sorte que le côlon soit propre, justement pour pouvoir avoir une bonne visualisation grâce à la caméra qu'on va introduire dans le derrière et pour permettre l'examen de tout le côlon. C'est un examen qui est assez invasif, on va dire, mais qui est le plus performant pour le diagnostic de cancer du côlon.
Et donc, en fait, à l'image, on voit quoi, en fait? C'est-à-dire, déformation?
Oui, alors généralement, c'est une tumeur qui va être ulcérée, qui va être fragile, qui va saigner au contact, qui va plus ou moins obstruer la lumière digestive. Et donc souvent, faire le diagnostic, on le fait de visu, hein, en voyant l'anomalie lors de la coloscopie. On sait d'avance le diagnostic. On aura d'emblée une hypothèse diagnostique assez, avec une bonne probabilité d'avoir un diagnostic de cancer du côlon si c'est un aspect suspect. Et donc là, on fera des biopsies parce qu'il est toujours nécessaire en cancérologie d'avoir une preuve. Comme on dit, anatomopathologique, pour avoir une confirmation du diagnostic, puisque souvent les traitements derrière qui vont être faits, c'est des traitements assez lourds, il peut y avoir de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la chirurgie. Donc c'est vrai qu'il est absolument indispensable, quand on peut, c'est pas toujours le cas, mais d'avoir une preuve anatomopathologique pour un diagnostic de certitude. Et actuellement aussi, ces prélèvements vont nous aider à caractériser du point de vue moléculaire la tumeur, et ça peut avoir un impact sur les stratégies thérapeutiques à proposer aux patients.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent vous aider à définir plus précisément ce diagnostic une fois que vous avez fait une coloscopie, qu'il y a un prélèvement? Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs ou choses?
Alors, ce qu'il va falloir une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est évaluer le patient dans sa globalité. Hein. C'est de savoir faire le bilan d'extension. Donc souvent, on va faire un scanner thoraco-abdominopelvien qui va explorer les poumons, le foie, l'ensemble du tube digestif pour voir est-ce qu'il y a une extension de la maladie au-delà du côlon. On va faire des examens biologiques assez standards. On va rechercher une anémie, une carence en fer. Il n'y a pas de marqueurs sanguins actuellement qui vont nous, enfin, aviser pronostic, comme on dit, théranostic, pour décider des traitements. Mais c'est une voie de recherche importante actuellement. Notamment, on parle de la biopsie liquide. Donc, ça peut avoir un intérêt pour rechercher, comme on dit, de l'ADN circulant tumoral. Qui peut avoir un intérêt diagnostique pour la surveillance, par exemple, si on détecte de l'ADN circulant tumoral. On a des données actuellement qui font penser que ce serait un patient qui a un plus grand risque de récidive, par exemple, s'il a été pris en charge pour un cancer du côlon le localise. Donc actuellement, il y a vraiment un enjeu dans le domaine de la recherche qui est très important pour identifier des biomarqueurs plus performants que les techniques d'imagerie ou que l'examen clinique pour surveiller ces patients qui seront pris en charge à visée curative.
Donc ça veut dire, par exemple, les biomarqueurs, ça permet en tout cas d'évaluer à ce patient-là, il est à risque de récidive, ou alors je sais que sur ce type-là de cancer, ce traitement-là ne va pas marcher.
Voilà, exactement. Par exemple, il y a un sous-type de cancer du côlon qui se caractérise du point de vue moléculaire par ce qu'on appelle une instabilité génétique, hein, qui est un mécanisme de réparation de l'ADN qui est très perturbé, qui va donner beaucoup d'instabilité génétique et qui va induire ce qu'on appelle des nœuds antigènes et qui va générer une réaction inflammatoire importante avec une stimulation du système immunitaire. Par exemple, on sait que ce type de cancer localisé aura moins de risques de récidive qu'un autre type de cancer du côlon qui n'aura pas cette caractéristique moléculaire. Donc actuellement, on a des biomarqueurs liés à la tumeur qui conditionnent, qui sont associés à des pronostics différents. Ce type de cancer aussi, à un stade plus avancé, répond mieux à l'immunothérapie. Par exemple, on parle beaucoup d'immunothérapie dans le cancer actuellement. Dans le cancer du côlon, jusqu'à peu de temps, on avait assez peu de données. Ce n'était pas un traitement qui donnait de bons résultats. Sauf dans ce sous-groupe de tumeurs caractérisé par une instabilité des microsatellites qui vont générer un environnement tumoral, une infiltration inflammatoire qui est associée à une bonne efficacité de l'immunothérapie. Voici un petit peu un exemple d'application de biomarqueurs qui actuellement enfin, sont d'usage courant, mais actuellement il y a d'autres pistes, d'autres biomarqueurs pour optimiser la prise en charge. En termes de surveillance, mais également d'indication de traitement ciblé.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, de se dire on va tricher avec des biomarqueurs parce que là, on a un cancer qui ne répond pas à ce traitement-là. Or,
Ouais.
je sais que tel autre cancer, lui, répond bien. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, prendre des biomarqueurs pour essayer de faire un traitement qui va, comment dire, qui va modifier un cancer pour lui faire croire que...
Non, non, c'est oui, un leurre, je ne sais pas, peut-être,
Oui,
non,
voilà, excusez-moi, je me suis mal
modifier
exprimée.
la machinerie génétique du cancer, pourquoi pas, effectivement, ça a des pistes intéressantes, mais actuellement, là, on en est très loin, quoi. Voilà. On est plus dans des stratégies, peut-être, de modifier le système immunitaire, de le rendre plus performant pour qu'il soit plus efficace. C'est un peu l'enjeu de l'immunothérapie. Alors, il y a les anticorps. Comme on dit, qui vont inhiber tous les checkpoints inhibiteurs qui sont associés à la réponse immunitaire. Donc là, c'est en développement dans le cancer du côlon pour un sous-groupe de malades, mais bon, ça a déjà fait sa preuve dans d'autres types de cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer du rein, le mélanome, etc. Donc là, au moins d'anticorps, on va modifier les interactions système immunitaire sur le tumoral. Et puis il y a l'étape. En développement aussi, ce qu'on appelle les CAR-T-cells, où on modifie génétiquement les lymphocytes de l'individu pour les rendre, entre guillemets, actifs vis-à-vis de la tumeur. Alors là, effectivement, c'est la thérapie génique, on modifie les lymphocytes propres, qui vont cibler un épitope particulier. Mais là, pour l'instant, dans les tumeurs solides, c'est en développement. Mais effectivement, actuellement, je dirais, les modifications, c'est plus lié à l'environnement de la tumeur.
Voilà, et donc pour en revenir peut-être au traitement plus conventionnel, donc vous avez dit qu'ils sont des traitements lourds, peut-être un mot sur leurs effets?
Oui,
Sur des...
alors, pour situer un petit peu la problématique, donc les traitements, il y a deux objectifs si on se limite aux chimiothérapies. Il y a une chimiothérapie, comme on dit, adjuvante, qui peut être proposée dans le cancer du côlon chez les patients qui ont été opérés et qui ont un risque relatif élevé de récidive, notamment ceux qui ont des ganglions envahis autour de la tumeur. On sait que ces patients-là, comparés à ceux qui n'ont pas de ganglions envahis, ont un risque plus important de récidive. Donc quand on a caractérisé ça, en l'absence de contre-indication, ce qui est proposé, c'est une chimiothérapie, comme on dit, adjuvante, qui va être administrée chez les patients pour diminuer le risque de récidive de la maladie. Donc, il y a de grandes études ces 20 dernières années qui ont validé ce concept et on a des chimiothérapies qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, c'est une association généralement de 5-fluorouracil oxaliplatine qui s'administre 3 à 6 mois. Alors, les chimiothérapies ont des inconvénients, hein, risque de toxicité hématologique, risque de nausée, de vomissement, de diarrhée, de chute des globules blancs, etc. Toxicité neurologique aussi, hein, des médicaments donnent une toxicité, notamment des fourmillements qui peuvent être invalidants avec le temps. Donc tout l'enjeu de la prise en charge de ces malades traités par chimiothérapie, c'est de les surveiller pour limiter le risque de toxicité aiguë ou de toxicité chronique tardive qui peut avoir un impact fort sur leur qualité de vie. Donc là, voilà un petit peu le premier registre, je dirais, de traitement systémique dans le cancer du côlon localisé avec le concept de traitement adjuvant. Pour les cancers plus avancés au stade métastatique, là, on a un panel de médicaments dont on va pouvoir se servir en élaborant différentes stratégies. Les stratégies sont conditionnées par l'importance de la maladie, le nombre de métastases, l'âge du patient, les comorbidités associées, des caractéristiques moléculaires qui vont faire qu'on va donner un traitement et pas un autre. Donc il y a toute une stratégie, une complexité là, ces dernières années qui s'est, s'est beaucoup développée. Et pour refaire un petit peu l'histoire, dans les années 90, un cancer du côlon traité au stade métastatique, on avait un médicament qui était 5-fluorouracil. Alors c'était au début des années 90 et la survie médiane ou moyenne de ces patients était de 6 à 8 mois. D'accord ? Années 90. Depuis, on a eu plus de 10 médicaments qui ont été développés en cancer du côlon avec des résultats intéressants. Et quand on enchaîne tous ces différents médicaments, maintenant, actuellement, la survie médiane d'un patient atteint d'un cancer du côlon métastatique, elle atteint quasiment 3 ans. Hein. Donc, il y a eu en 20 ans, enfin, un peu plus de 20 ans, l'espérance de vie a été multipliée par 4 ou 5. Hein. Ça reste quand même une maladie grave puisque l'espérance de vie à 5 ans d'un cancer du côlon métastatique, elle est de l'ordre de 20% quand même. Hein. Voilà.
Et donc, est-ce qu'il y a un dialogue aussi avec les patients quand vous avez une maladie aussi grave, en fait, de leur dire, bah voilà, le traitement qui existe, c'est ça, il a tels effets, c'est un traitement lourd. L'espérance de vie que vous pouvez avoir, c'est ça. Est-ce que c'est des arguments qu'on met dans la balance aussi, d'expliquer
alors,
aux gens
Oui, alors, pareil, il n'y a pas un cancer qui ressemble à l'autre, il n'y a pas un patient qui ressemble à l'autre. Hein. Donc, à nous, à chaque fois, de tenir compte un petit peu du profil du patient pour donner l'information qui va être la plus pertinente et adaptée à sa prise en charge. Alors, on a la chance en cancérologie qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place à l'occasion des différents plans cancer qui datent d'un peu plus de quasiment de 20 ans. Où il y a des dispositifs d'annonce, comme on l'appelle. Donc c'est vrai que quand on voit un nouveau patient en consultation, qu'on prend en charge pour un cancer du côlon métastatique, il y a beaucoup d'informations à lui donner. Alors on lui donne les informations sur le traitement qu'on lui propose, les effets indésirables qu'il peut y avoir, ce qu'on va mettre en place comme surveillance, évaluation, et puis... Moi, je ne donne pas de chiffres hein, de survie, puisque ça ne veut pas dire grand-chose, je dis toujours... c'est une moyenne et donc il y a 50% des patients qui sont en dessous de la moyenne et d'autres au-dessus. Voilà, donc si on parle de médiane. Donc, et chaque patient, c'est 100% que ce soit un succès ou un échec. Donc je trouve que c'est difficile et moi je ne donne pas de chiffres, sauf si les patients demandent bien sûr, ou de plus en plus les patients vont regarder sur Internet, ils regardent les chiffres. Et donc ils n'ont pas forcément la capacité à faire un tri avec l'information, ça peut être anxiogène. Donc, on s'adapte vraiment au cas par cas. Il y a des patients qui voudront ne pas du tout savoir le pronostic de leur maladie. Donc, c'est un mécanisme de défense qu'il faut respecter aussi. D'autres qui voudront en savoir plus. Donc, voilà, le dialogue, il est singulier avec un patient. Hein, donc, il n'y a pas de règle générale. Et puis, en tout cas, tout est fait pour l'accompagner au mieux avec les consultations d'annonce, les infirmières qui revoient les patients après l'annonce, qui réexpliquent le parcours de soins, éventuellement un soutien psychologique qui peut être mis en place. Enfin, le patient, il est loin d'être livré à lui-même. Il y a tout un accompagnement. Il y a aussi le rôle de l'aidant, du proche, qui impacte beaucoup sur la qualité de la prise en charge, en tout cas qui a un rôle important dans l'accompagnement, dans la prise en charge d'un patient pris en charge pour un cancer du côlon métastatique, par exemple.
C'est ce qu'on appelle les soins de support ?
En gros, oui, c'est un peu ça, effectivement. C'est les soins de support qui se développent beaucoup actuellement. Et donc, il y a la diététique, la prise en charge diététique, il y a l'accompagnement psychologique. Il y a aussi l'activité physique adaptée. De plus en plus, ça représente un enjeu important puisqu'on sait que les patients qui vont avoir une activité physique, une bonne prise alimentaire, vont mieux supporter le traitement, le traitement sera plus efficace. Mais ça, c'est valable pour tout cancer en général.
Alors, on peut penser à des choses qui, peut-être plus sur les cancers du sein, mais du coup, comme une approche avec une socio-esthéticienne.
Donc oui, ça se fait, oui. Alors, effectivement, il y a parmi l'offre de soins de support, en tout cas dans le service ou dans les services où je travaille, il y a cette offre-là qui est proposée aux patients, qui est souvent très appréciée. Et on voit les patients, après une séance de socio-esthéticienne, entre guillemets, sont plus détendus, beaucoup plus sereins. Puis ça renvoie aussi à une amélioration de leur image corporelle, etc. C'est très important, oui, c'est très important.
Voilà, c'est parce que, comment dire, peut-être l'estime de soi.
Exactement, les
personnes...
C'est sûr que l'annonce d'un cancer, alors on déborde un peu le sujet, mais de façon générale, l'annonce d'un cancer, c'est un orage hein, dans l'existence d'un patient. Donc, c'est vrai qu'il faut tout mettre en œuvre pour l'accompagner au mieux. Donc, il y a les traitements, mais effectivement, il y a un enjeu important et qui rend un grand service aussi dans la prise en charge et tout ce qu'on va mobiliser comme soins de support autour du patient.
Voilà, et avant que d'en arriver là, évidemment, il y a toutes les actions de prévention et de dépistage qui existent et nous en parlerons, Thierry Lecomte, si vous en êtes d'accord, après une seconde pause musicale, toujours choisie par vos collègues. Alors, on va écouter Moon Jelly's Meeting Place et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
What about the green light? Oh.
De retour sur Radio Campus Tours, nous venons d'écouter Moonjellies, Meeting Place. Alors, je suis toujours en studio avec le professeur Thierry Lecomte. Donc, avant que d'être traité par chimiothérapie et autres, il y a quand même une grande place à donner aux actions de prévention et au dépistage pour ce qui est du cancer du côlon. Alors, peut-être que vous voulez nous en dire plus.
Oui, je voulais un petit peu reparler un peu de ça, notamment les différents dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années en France, avec notamment pour les sujets à risque moyen de cancer du côlon, les sollicitations qu'ils reçoivent pour faire un dépistage basé sur la recherche de sang dans les selles. Hein, donc ces sujets-là asymptomatiques entre 50 et 60 15 ans, l'ensemble de la population est sollicité tous les 2 ans pour rechercher du sang dans les selles. Et si le test est positif, ça conduit à réaliser une coloscopie qui va permettre, dans une grande majorité des cas, de trouver soit un cancer à un stade peu avancé qui pourrait être pris en charge à la visite curative, soit des lésions précancéreuses qui pourront être enlevées par voie endoscopique et qui préviendront le risque de cancer. Donc c'est vraiment un enjeu important. Le regret qu'on a, c'est que l'adhésion, elle n'est pas très bonne dans la population. L'objectif qui avait été fixé lors du déploiement de ce dépistage dans la population en risque moyen au niveau national, c'était un taux d'adhésion de 55, voire 60%. Mais il s'avère qu'on est plus proche de 30% au niveau national avec des disparités régionales. On a la chance en région centre de Val-de-Loire où l'adhésion est plutôt bonne et supérieure à la moyenne nationale, mais on reste encore plutôt autour de 35-40%, alors que le taux cible était plus 50-60%. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique important. Et donc le message à faire passer auprès des auditeurs, c'est de communiquer, de parler du cancer du côlon, qu'il y a des actions qui sont mises en place. Par exemple, il y a Mars Bleu, je pense que vous êtes malheureusement assez peu à le connaître, hein, par rapport à Octobre Rose où tout le monde en a entendu parler. Mars Bleu est moins et plus anonyme, je dirais, et ça peut s'expliquer par différentes raisons. C'est que les gens sont plus sensibles au dépistage du cancer du sein. C'est l'acceptabilité des tests de dépistage qui sont faits dans ce cadre-là sont peut-être plus simples, contrairement aux tests de dépistage du cancer du côlon qui nécessitent, pour les patients sollicités, de faire un prélèvement de leur selle qui n'est pas toujours facile en soi à accepter. Mais en tout cas, je peux qu'encourager à ce que ça se développe, parce que c'est vraiment, ça donne d'excellents résultats en termes de mortalité par cancer du côlon en France. On sait que si l'adhésion était à des taux beaucoup plus élevés, on aurait une mortalité moindre de cancer du côlon, qui, je le rappelle, est la deuxième cause de mortalité par cancer en France.
Peut-être un mot sur le... Pardon d'être si terre à terre, mais sur le coût. En fait, de se dire, mais dépister les gens, peut-être que c'est un coût moindre que traiter.
Oui, alors effectivement, c'est sûr que le coût est moindre pour la société. Ça, on est bien d'accord. Et de façon générale, toute stratégie de dépistage, quand elle est acceptée, quand elle est efficiente, efficace et mise en œuvre, il y a cette notion de coût qui intervient bien évidemment. Mais il n'y a pas que le coût, il y a aussi le fait qu'on aura à traiter des maladies moins avancées, où on préviendra la maladie. Donc traiter des maladies moins avancées, ça veut dire moins de chirurgie invasive, moins de chirurgie mutilante, moins d'anus artificiels, moins de chimiothérapie, moins de séquelles de la chimiothérapie, et puis moins de morts par cancer. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un enjeu lié au coût, mais c'est la conséquence de tout ce que je viens de dire en termes d'impact sur la santé de la population.
Et alors, Mars Bleu, quels événements sont prévus? Des conférences
Alors oui, effectivement, souvent il y a des programmes de conférences qui sont faites. Il y a les gastroentérologues, les centres régionaux de coordination des dépistages qui font des actions de communication. Il y a les sociétés savantes qui communiquent, il y a la Ligue. Donc, par exemple, il y a jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on appelait le colon tour. Hein, c'était une sorte de ballon gonflable qui représentait un colon qui était mis à disposition sur la place publique et les gens pouvaient visiter. Et ça, c'était une façon de sensibiliser la population à ce que c'est qu'un colon, un polype et un cancer qu'on va prévenir. Il y avait ce type d'action. Il y a aussi certains cabinets de gastroentérologie qui font des actions locales en termes de pour sensibiliser la population et les patients. Donc oui, il y a régulièrement des actions qui sont. Puis vous aviez cité le CREG avec le colon D. Effectivement, au mois de mars, il y a les sociétés savantes. Qui communiquent, enfin les sociétés savantes de gastro-entérologie qui communiquent sur cette thématique tous les ans. Mais force est de constater que l'impact est moindre que lors des événements qui sont réalisés à octobre rose.
Mais du coup, ça veut dire quoi ? C'est donc quelque chose parce que c'est plus difficile à... Alors, la com est moins bonne.
Oui, non, mais je citerai un exemple. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a quelques années, il y avait Angelina Jolie, qui est une actrice donc célèbre que tout le monde connaît, qui était porteuse d'une maladie génétique qui expose au cancer du sein. Et donc, elle avait communiqué sur sa pathologie et donc elle avait dévoilé qu'elle avait eu une mastectomie bilatérale prophylactique. Et donc, ça avait fait l'objet aux États-Unis de beaucoup de communication dans les médias. Il y aurait des études scientifiques qui montraient que cet impact-là avait eu en termes de recours aux consultations de génétique, d'identification des risques de cancer du sang, très, très important. Il n'y a pas d'exemple de ce type dans le cancer du côlon. Voilà.
Donc,
avis des personnes célèbres de voilà, alors. Bon, c'est quand même plus compliqué de communiquer sur ce type de cancer.
Et alors, parce que le contexte sanitaire oblige cette question, est-ce qu'il y a eu un impact du Covid ou de la Covid-19 sur le dépistage ?
Ah oui, important. Il y a eu moins de coloscopies de dépistage qui ont été réalisées en France durant la période de Covid. Donc c'est vrai que sur le dépistage, l'impact a été important. Alors, pour les patients symptomatiques et des cancers plus avancés, il y a eu le maintien d'une activité diagnostique ou de chirurgie carcinologique qui a été maintenue, mais par contre, moins de coloscopies à visée de dépistage, oui. À cause de l'épidémie, oui.
Et donc là, ça veut dire que c'est un élément à prendre en compte sur le déploiement des systèmes de prévention, de se dire bah tiens, comment on fait en cas de pandémie, en cas de...
Alors après, c'est ça, on pouvait pas l'anticiper. C'est une histoire de priorisation. Quand il y a besoin d'anesthésistes en réanimation pour traiter les malades en réanimation qui nécessitent des lits en nombre plus important, ça s'est fait au détriment de l'activité de dépistage, mais dans l'urgence parce qu'il y avait un besoin et donc ça, on pouvait pas l'anticiper. Donc c'est sûr que de façon générale. La pandémie Covid a eu un impact, continuera à avoir un impact sur la prise en charge du cancer en général. Ça ne concerne pas que le cancer du côlon, d'autres types de cancers. Et les prévisions qui ont été faites dans différentes études de modélisation nous font craindre que dans les années à venir, il y ait une surmortalité, alors pas majeure, mais de quelques pourcents, de moindre diagnostic précoce, de moindre dépistage en cancérologie de façon générale.
Alors, l'émission va déjà bientôt toucher à sa fin. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure les risques d'autodiagnostic par consultation d'Internet intempestive, mais peut-être avez-vous quand même des sites à recommander à nos auditeurs où on peut trouver de l'information fiable et, bien expliquée ?
Oui, alors, moi, je citerai le site de la Société française d'endoscopie digestive, Il y a le site de l'INCa aussi. Sur le site de l'INCa, il y a toute une série de documents assez riches, assez bien documentés.
C'est l'Institut national du cancer,
effectivement. Donc, sur les moteurs de recherche, ça apparaît assez facilement. Et il y a une documentation assez riche, assez précise, notamment sur le cancer du côlon. Comme je disais aussi, la Société française d'endoscopie digestive, la Fédération francophone de cancérologie digestive aussi. Enfin, je recommanderais plutôt ces sociétés savantes où il y a des pages qui sont dédiées aux patients. Et puis la Ligue contre le cancer aussi, bien évidemment.
Peut-être le site de l'INSERM.
Et alors le site de l'INSERM, je ne crois pas qu'il y ait des choses très précises sur ce que je viens d'évoquer, en tout cas très, très marqué clinique, mais par contre c'est sûr qu'il y a régulièrement des communications sur les avancées qui sont faites en termes de recherche sur le cancer du côlon. Oui. Mais là je dirais que c'est un peu plus spécialisé, plus en amont de la clinique et notre pratique quotidienne en tant que praticien.
Merci Thierry Lecomte.
Merci à vous.
Alors, avant de terminer cette émission, je ne résiste pas quand même à dire à nos auditeurs que vous aviez déjà fait de la radio.
Oui, c'est vrai, effectivement. Parce que je suis une génération où j'ai vécu étant jeune, les années 80, les radios libres. Donc effectivement, ça m'a renvoyé à des souvenirs de jeunesse, des cercles d'amis où on avait pu bénéficier de cet élan de liberté. Et donc, j'ai eu effectivement l'occasion et la chance de participer à quelques émissions de radio sur des thématiques très divergentes, on va dire. C'était plus en lien avec le cinéma ou les lectures, notamment en lien avec, sur la thématique de science-fiction. Voilà, je vous ai tout dit.
Voilà, donc avis aux étudiants qui nous écoutent. Vous voyez, ça mène à tout de faire de la radio. N'hésitez pas, venez à Radio Campus Tours. Merci encore à vous Thierry Lecomte. Voilà, vous représentiez ici l'unité INSERM Nutrition Croissance Cancer. On remercie également Jean-Michel Escoffre, voilà, qui nous aide à mettre en place ces émissions. On vous souhaite à tous la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes. Et cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et mise en podcast sur notre site radiocampustour.com.